Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter, c'est reparti pour l'instant M.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Daphné Roulier, 20 ans de carrière à Canal+, un pied dans la culture, un pied dans l'actu pur et dur. Et puis, rupture. Daphné Roulier promène désormais son chic un peu précieux, mais toujours solaire sur Paris Première. Mais toujours solaire, j'ai rajouté. Ça y est, elle est vexée.
Pas du tout.
Une émission mi-actu, mi-culture, une émission d'actualité culturelle qu'elle a ancrée dans un faux supermarché acidulé. Pourquoi ? Parce que la télé ne s'adresse ni à des lecteurs, ni à des spectateurs, mais à des consommateurs. Ou alors, parce que la télé se voit depuis toujours tellement embarrassée à l'idée de causer culture, qu'elle a décidé une fois pour toutes de s'en moquer. De la culture ? Non, non, d'elle-même.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
De me moquer de moi-même, certainement. Bonjour Sonia.
C'est absolument bonjour, nécessaire. Bonjour Daphné Roulier.
Qu'est-ce que ça fait plaisir de venir ici. Mais quelle joie de vous retrouver dans ce studio.
Mais que vous y êtes, la bienvenue. Vous avez été l'une de nos consoeurs.
Oui.
Fut un temps, vous animiez ici une émission du samedi soir. Donc l'émission sur Paris Première, elle s'appelle Rayon Culte. Elle passe à 23h le mercredi soir. La semaine dernière, vous aviez invité Nicolas Bedos. Demain soir, vous recevez Manu Lévy, l'humoriste.
Manu Payette.
Manu Payette. Exact, c'est moi qui ai mélangé les deux, c'est vrai.
C'est pas grave.
Ah mais oui, c'est vrai, Manu Payette, l'humoriste.
Avec un T qui se prononce comme deux.
Comme deux. Bien, alors on en parle dans une minute. Tous les mardis, il y a Xavier à mes côtés, Xavier
comme,
Delaporte.
Comme deux, c'est-à-dire comme deux T.
Comme deux T.
Ah, je ne comprenais pas, je me disais un T qui se prononce comme deux, je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire, ok. Bon,
est-ce que la porte va ouvrir la fenêtre ce mardi matin?
Oui, pardon.
Allez, la fenêtre de la porte, on y va.
S'apercevoir que des officiers du renseignement ont été retournés et donnent des informations à une puissance étrangère, c'est désagréable. Mais découvrir qu'ils ont été recrutés sur un réseau social grand public, c'est carrément consternant. C'est pourtant ce qui est arrivé aux États-Unis, dont les services de contre-espionnage se sont rendus compte que des fonctionnaires avaient été corrompus par la Chine et recrutés sur LinkedIn. C'est dans une enquête menée par la chaîne américaine CNBC, on découvre ainsi que, assez stupéfait, que ce réseau social professionnel assez ennuyeux, hein, 610 millions de profils, 300 millions de profils actifs au moins une fois par mois,
oui, propriété c'est vraiment très,
de
très
Microsoft.
Sérieux, hein,
pour le coup. C'est sérieux et assez ennuyeux, mais c'était... C'est un nid d'espion dorénavant. Donc, c'est beaucoup plus marrant qu'on ne le pensait. Alors, pourquoi LinkedIn? D'abord, parce que c'est une plateforme où on trouve des informations professionnelles hyper précises. Les gens qui créent des profils disent où ils travaillent, ce qu'ils font. Et en regardant leur réseau, il est assez facile donc de recomposer l'organigramme d'une organisation en temps réel, évidemment, puisque tout le monde actualise en permanence son profil. Par ailleurs, c'est un endroit où il est courant de faire part de ses frustrations et espérances de manière assez implicite, y compris en termes financiers. Bref, c'est au dire des spécialistes du contre-espionnage, le lieu parfait pour des services de renseignement étrangers qui veulent entrer en contact avec des employés prêts à violer la propriété intellectuelle contre de l'argent ou avec des fonctionnaires qui se considèrent pas assez reconnus dans leur emploi. Alors, une autre méthode, un peu plus finaude, consiste à créer de faux profils de personnes réelles qui occupent des postes assez importants et de les faire converser avec leurs soi-disant homologues en message privé pour leur soutirer des informations à ses homologues. Alors la mésaventure est arrivée par exemple au patron d'une grande banque américaine qui a découvert qu'il avait 5 profils sur LinkedIn et il n'en avait créé aucun. Alors qui excelle dans ce jeu? Eh ben les Chinois, comme toujours. En août, le directeur d'une agence gouvernementale américaine chargée du contre-espionnage avait expliqué au New York Times, je cite, « Au lieu d'envoyer des espions aux États-Unis pour recruter une seule source, il est plus efficace de s'asseoir derrière son ordinateur en Chine et d'envoyer des demandes d'amis à des milliers de personnes en utilisant de faux profils sur les réseaux sociaux. Les Chinois donc, mais pas seulement. NSBC raconte qu'en 2015, c'est tout un réseau iranien qui avait été identifié sur LinkedIn avec un fonctionnement assez subtil. Les comptes étaient divisés en deux catégories. Il y avait les leaders qui avaient des CV complets, des descriptions de postes dont certains comptaient plus de 500 contacts et puis des supporters qui étaient chargés de donner l'impression que ces leaders étaient importants. Et puis évidemment, il y a les Russes comme toujours. Alors Chine, Iran, Russie, c'est les usual suspects. Oui, mais comment ne pas imaginer que d'autres pays n'ont pas eu l'idée de faire ça, à commencer par les États-Unis, mais ça, on ne le saura pas. Alors, LinkedIn dit être conscient du problème et le prendre à bras-le-corps. Hein. Ainsi, entre janvier et juin 2019, l'entreprise dit avoir bloqué aux alentours de 20 millions de créations de faux comptes. 20 millions qui ne sont sans doute pas tous des comptes d'espions étrangers, mais enfin quand même. Alors évidemment, c'est sans doute plus compliqué que ça en a l'air, hein, de faire du renseignement sur LinkedIn. Néanmoins, avec ce nouvel espionnage à la fois humain et à distance, c'est toute une mythologie qui s'effondre, celle des polars et du cinéma, et ce n'est pas sur LinkedIn qu'on verra Humphrey Bogart soutenir le menton d'Ingrid Bergman, prête à pleurer et lui dire.
Non, non.
looking at you, kid.
Vous savez, c'est très très traître cette histoire, parce que je me souviens d'une histoire sur Instagram. Le patron du MI6 à l'époque avait été débarqué pour avoir posté sur Instagram des photos de vacances et géolocalisé, ce qui est dément. Le patron de MI6 poste des photos de lui en famille sur une île quelconque, je ne sais pas, Saint-Barthélemy, et il se fait débarquer.
Ça s'appelle la dissonance cognitive.
Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Xavier Delaporte, c'est que tout ça ne tue pas la mythologie du cinéma. Tout ça crée de nouvelles histoires pour le cinéma.
Bien sûr. Allez, vous êtes progressiste.
Xavier Delaporte à réécouter sur franceinter.fr. Daphné Roulier, au cas où vous l'auriez oublié, est mon invité.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Daphné Roulier, 20 ans de carrière à Canal+.
23.
23, bien madame.
Précis.
Et ben, on s'arrête sur un au revoir qui était joliment écrit.
En 2018, je vous le disais, tout passe trop vite. Papillon redevient chenille et notre carrosse citrouille. Ce fut un honneur de papillonner pendant toutes ces années en votre compagnie. Avant de tirer le rideau, je tenais à remercier l'agence Kappa qui a porté cette émission pendant 12 belles années.
Avec Acte une mention spéciale 1, pour mort d'une belle émission de reportage tournée tout autour de monde, du monde, l'effet papillon. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je ne sais pas, il faut poser la question au directeur des programmes et au patron de Canal+.
Ça a fait gros pataquès médiatique. Vous aviez diffusé dans cette émission un reportage sur l'opposition.
Sur le Congo.
Voilà.
Absolument.
Au Togo. Et puis, ça n'avait pas plu à votre actionnaire. Les rediffusions de cette émission avaient été supprimées. Ensuite, la chaîne a été sanctionnée par le CSA pour avoir diffusé un reportage bourré d'images promotionnelles. Mmh. Et puis ensuite, l'émission a été supprimée.
Ouais. C'est le droit d'une chaîne privée avec un opérateur privé.
Ouais.
Il peut repeindre les murs en fuchsia si ça lui chante et supprimer une émission comme l'effet papillon s'il le souhaite. On ne m'a pas donné d'explication et je n'en aurais pas.
Ouais.
Moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que effectivement, j'ai passé 23 années à Canal et sans doute les plus belles de ma carrière. Je n'en renie aucune, mm-hmm. pas une. Après, voilà, vous savez, c'est comme un divorce. On met 5 minutes à s'aimer, 5 ans à divorcer. C'est comme des histoires d'amour, ce qui a été le cas. Donc, je suis partie de Canal en mars dernier.
Alors, vous étiez néanmoins annoncée aux côtés d'Yves Calvi dans cette nouvelle tranche en clair. Et puis, finalement...
Non. On a cherché un terrain d'entente. On ne l'a pas trouvé. Mm-hmm. Et effectivement, on s'est séparés. Très bons amis, c'est une histoire qui se termine. Maintenant, Canal, on trouve des choses formidables encore sur Canal. Il se passe des choses. Vous trouvez Poulpovision avec Poulpe que j'adore, Clic de Mouloud Achour, 21 cm d'Augustin Trapenard, Le Cercle que j'ai inauguré. Et puis, puisque vous me posez la question, c'est gênant, mais aussi la Gaule d'Antoine qui mérite à la fois.
Antoine de Conquier, votre mari. Oui, c'est très gênant. Rayon Culte a démarré la semaine dernière sur Paris Première.
Oui. Bienvenue dans Rayon Culte. Culte pour évoquer la culture, sans dire le mot, auquel on associe à tort ou à raison un esprit de sérieux, limite pontifiant. Rayon Culte, c'est reparti, l'émission qui vous sert la culture, non pas sur un plateau, mais dans un caddie, consommé si vous voulez, mais pas n'importe quoi. Le temps de la malbouffe est révolu. Nous vous aidons à faire le tri.
À faire le tri ?
À faire le
parler
tri.
Culture sans en parler, sans dire le mot, trouver des mimiques et des gadgets, des détours lexicaux pour ne pas rentrer dans les mots de la culture.
Mais pas du tout, absolument pas. J'écoutais votre intro tout à l'heure et vous disiez... qu'est-ce que vous disiez d'ailleurs que... Je crois que tu peux faire éveiller.
Est-ce que vous parlez...
Non, je vais vous dire, le supermarché, ouais. C'est juste un clin d'œil. Mm-hmm. C'est parti d'un clin d'œil à Karl Lagerfeld, qui, si vous vous en souvenez, avait fait un défilé au Grand Palais,
oui,
dans un supermarché.
Un défilé Chanel, absolument.
Et c'était le premier...
Il avait reconstitué les rayons d'un supermarché.
Voilà, les rayons d'un supermarché. Mmh. Ce que j'avais trouvé très à la fois marrant et pertinent, parce que on pense souvent que la culture, et on continue à le penser d'ailleurs, que la culture est réservée à une élite, que la culture n'est pas pour tous. Or, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il y a LinkedIn, mmh, mais il y a aussi la possibilité de télécharger pour 99 centimes d'euros un morceau que vous pourrez entendre à vie. Pour 4 ou 5 euros, vous pouvez voir et revoir des films classiques sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez avoir accès au fond, aujourd'hui, on a
mais avec le supermarché, on ne dit pas attendez. La culture est populaire, on dit si, la culture non, s'adresse non, à non, des consommateurs.
Non, absolument pas. La culture, c'est un clin d'œil. Oui. Encore une fois, j'ai pensé, c'était une référence effectivement à Karl Lagerfeld. Oui. C'était aussi une référence pour le décor un peu carton-pâte à Gondry, pour l'éclectisme du casting à Warhol et à sa Factory. C'est un clin d'œil, c'est une métaphore. Il ne faut pas le prendre. Bien évidemment, ça n'est pas
au premier
un plaidoyer de la grande distribution. voilà, c'est bien évidemment pas un plaidoyer de la grande distribution, c'est juste une façon de dire, la culture est en libre accès, servez-vous.
C'est aussi peut-être une façon de réfléchir à la façon dont la télévision parle de culture et a parlé de la culture. Par exemple, vous avez une rubrique qui inaugure l'émission qui s'appelle La promo de la promo. Ouais. Et donc avec Nicolas Bedos, vous, la semaine dernière, donc votre invité, vous avez parlé de ce que c'est que de faire la promo dans les médias d'une œuvre avant même de parler de l'œuvre elle-même, Daphné Roulier. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est aussi une espèce d'aveu magnifique de ce que la télévision fait de la culture, c'est-à-dire que l'exercice médiatique d'un auteur, d'un réalisateur, d'un chanteur aurait plus d'importance que son film, que son livre.
Je crois pas du tout.
Non.
Je crois absolument pas. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelait La vie est un jeu sur France Inter, oui. où je faisais des grands entretiens culturels. C'est pas tellement... Vous savez, ce qui est important... D'abord, c'est une façon de décoder les codes. Je pense que l'exercice de la promo est un exercice compliqué que les artistes font en traînant les pieds de plus en plus. C'est vraiment un exercice obligé. Donc ça m'intéressait, avant de parler de culture, de décoder cet exercice-là. Ils viennent pour vendre quelque chose, pour défendre quelque chose, mais ils sont dans un exercice qui leur déplaît profondément. Donc c'est une façon de, à la fois de les mettre à l'aise, à la fois de...
Vous jouez avec ça, puisque...
Mais moi, je suis très joueuse.
Votre invité de la semaine, vous l'appelez le bon client.
Bien sûr.
Là aussi, il y a un sous-texte formidable, parce que, évidemment, vous jouez avec les items.
Il y a de l'autodérision. Il y a de l'autodérision.
Dans l'autodérision, il y a du sous-texte.
Oui, pas forcément du sous-texte, mais il y a de l'autodérision.
Et vous et moi, qu'il y a des artistes qui font des œuvres dont tout le monde se fiche. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons clients. Ils garantissent de faire un tabac dans les médias.
Absolument, bien évidemment. Mais d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je m'amuse de la promo de la promo. Oui. Et je m'amuse du bon client. Par ailleurs, on fait en sorte d'inviter des gens que j'aime bien. J'ai trouvé que le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, était un très joli film. Donc j'ai envie d'en parler. On aura Manu Payette la semaine prochaine. Sylvain Tesson ensuite. Enfin, on choisit notre client en fonction de son œuvre et non pas Sylvain Tesson. Il a pas fait l'école du rire.
Non. Alors évidemment, pour poser vos questions, vous utilisez tout un tas de gadgets. L'émission, elle est hyper rubriquée. Vous utilisez tout le champ lexical du supermarché, le haut du panier, le produit élu produit de l'année pour dire le coup de cœur, etc., etc. Écoutez, on va faire écouter aux auditeurs comment vous posez une question sur son film à Nicolas Bedos. Là aussi, vous choisissez. C'est un artifice de la grande conso. Ceci dit, ça donne une séquence assez révélatrice et intéressante.
Si je soumets votre film à l'appli Yuka, que trouve-t-on ?
Je ne sais pas ce que c'est.
Vous allez jamais au supermarché ?
Si. En tout cas, on me le raconte.
Si,
j'adore aller au supermarché. Je trouve qu'il n'y a rien de plus. Moi j'aime bien. J'ai des très jolis souvenirs moi dans les supermarchés. Oui,
racontez-nous.
Un début d'aventure avec quelqu'un qu'on aime. Puis
j'ai jamais eu d'aventure au supermarché.
Alors arrêtons de parler.
Ça n'a jamais démarré comme ça.
C'est merveilleux, non? Alors, la vieille dame qui fait franchement, elle raconte n'importe quoi, faut qu'il arrête ses simagrées.
D'ailleurs, c'est très drôle parce
que Judith Magre qui a 92 ans et qui est chroniqueuse dans votre émission, on va en parler dans un instant.
Judith Magre qui par ailleurs n'a jamais fait les courses au supermarché
de sa vie.
Et qui me le dit très gentiment en me disant mais moi je fais faire mes courses par d'autres.
Oui, et surtout arrête Bedos de raconter n'importe quoi. Donc déjà, on se demande mais qu'est-ce qu'elle a cette animatrice de télévision à aller chercher Yuka pour poser une question sur le cinéma et derrière
mais c'est
au
intéressant.
Il y a quelque chose qui se révèle.
Bien sûr. C'est intéressant.
Oui, on va peut-être dire ce que c'est Yuka.
C'est une application que vous avez sur votre portable et vous pouvez scanner les produits et vous savez s'il y a trop de cholestérol, trop de graisse, trop de produits saturés. Enfin,
9 millions d'utilisateurs. En même temps, on se demande pourquoi vous avez besoin de tant d'artifices et de tant de gadgets, de tant de rubriques et tout ça pour poser des questions et pour mettre en scène la
culture. Sonia, je n'ai besoin de rien, puisque moi je pense que fondamentalement la télé comme la radio
il suffit d'une table et d'un micro.
Eh ben alors ?
Eh bien alors, c'est compliqué.
Je fais écouter aux auditeurs ce qui se passe à la fin de l'émission. Chut, on s'en va les chroniqueurs, on baisse la lumière. Mmh. Et là, il n'y a plus qu'une table et un micro, comme dirait Daphné Roulier. Et d'un seul coup, il y a une vraie interview et on entend un artiste.
On a le sentiment que l'amour maternel chez vous, c'est à la fois un poison et un remède.
Exactement, c'est très juste, Daphné, oui. J'ai une mère qu'on retrouve d'ailleurs un peu de près
partout,
ou de loin dans mes...
Dans toute votre œuvre.
Oui, oui, c'est ça. Et parce que c'était un personnage qui a vécu, disons, qui, je pense, m'aime. Mmh. Et néanmoins, je suis à la fois un fils et un amant.
Oui, Nicolas Bedos parlait d'un inceste gouverné. Malheureusement, vous savez, on ne peut pas faire une heure d'interview en télé aujourd'hui.
Vraiment ?
Je crois pas. Je crois pas. Enfin, si on pouvait le faire, je le ferais volontiers. Je pense que c'est très compliqué. Je pense que
même sur une chaîne de la TNT payante, qui donc s'adresse à un public un peu plus âgé, un peu plus cultivé,
je ferais sans
qui
doute
a vu passer Ardisson, Tesson, oui, oui. Elisabeth Quint,
Tadei. Oui, mais encore une fois, c'était très charté. C'était très l'émission de d'Ardisson à l'époque, rive droite, rive gauche, elle était chartée. Tout est charté. Tout est rubriqué. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, sur cette radio, de faire 45 minutes, 50 minutes d'entretien sans aucun artifice pendant 2 ans. C'était un bonheur absolu. Je pense que je pourrais le faire aussi pour Paris Première au coup par coup. Je ne sais pas si aujourd'hui, les auditeurs, les téléspectateurs, habitué à être bombardé d'images, d'être hyper sollicité, ont envie, je dirais pas sont capables, mais ont envie d'une heure d'interview. Moi, ce serait mon rêve le plus absolu, parce que je pense que c'est ce que je sais faire le mieux. Par ailleurs, cela étant dit, cette émission m'amuse beaucoup parce que j'ai voulu ne pas prendre des chroniqueurs assermentés, des experts.
Alors, on en parle de cette bande, alors très bizarre à regarder,
oui, alors,
très drôle
et
très sympathique.
Hétéroclite, oui. Elle est très hétéroclite. Et l'idée, c'était non seulement de dire que la culture, ça n'est pas, encore une fois, réservé à une élite, mais la culture, tout le monde peut en parler. Et tout le monde est légitime pour en parler. Et
Julie Magre, 92 ans. À ses côtés, il y a Kiddy Smile, rappeur noir homosexuel qui arrive habillé en gros bébé déguisé en léopard avec des lunettes roses. Il y a Gérard Lefort, ancien patron de Libération. Il y a Elena Noguera.
Il y en aura beaucoup d'autres.
Pour l'instant, ça fonctionne pas très bien. C'est une première. Il faut leur laisser du temps.
D'abord, ça n'est pas du tout. Moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. J'aime beaucoup en télé les accidents. J'aime ce qui n'est pas parfaitement coiffé, ce qui dépasse.
Vous dites ça alors que cette émission, elle est justement tellement organisée, rubriquée, etc.
La preuve que ouais. Non, c'est qu'elle est chartée, elle est organisée. Et en même temps, vous avez Judith Magre qui intervient auprès de Nicolas Bedos. Après, vous savez, c'est comme dans un dîner, quand les gens ne se connaissent pas, ils ont besoin de se renifler et de s'amadouer, pardon, en l'occurrence. C'est vrai, bonjour, vous allez bien?
Ça va, merci.
Ça va, Rémi qui vient d'entrer dans le studio.
Il faut se renifler un peu avant.
Oui, un petit peu,
un petit peu. Donc, ils ne se connaissent pas. Ils se rencontrent pour la première fois le jour du tournage. Vous imaginez bien. Donc, ils sont tous un peu engoncés, un peu timides, ce qui est normal. Maintenant, les choses vont se faire petit à petit. Ça va se roder. Il y a d'autres gens qui vont venir. Il y a Julie Depardieu, Sylvie Testu, une jeune fille qui n'a jamais fait de télé de radio qui s'appelle Ambre Chalumeau, Odile Doutremont, Constance Debray qui est écrivain. Il y a des gens très différents
qui vont donc se renifler tous les mercredis soirs à 23h.
C'est formidable. L'idée, Sonia, c'est d'ouvrir les fenêtres, que les gens se parlent.
Et se reniflent.
Moi, je trouve ça formidable que les gens se reniflent.
Merci, Daphné Roulier, l'émission s'appelle Rayon Culte. Allez, Rémi.
On va renifler sa nourriture avant de la manger ce matin. Cuisiner et manger.
On avait des goûteurs à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Cuisiner et manger en pleine conscience, c'est notre thème ce matin. Racontez-nous pourquoi cuisiner vous fait du bien.
Reniflez-vous en pleine conscience.
01 45 24 7
Il faut se renifler en pleine conscience, ce sera le mot du jour.